Bonjour et bienvenue dans Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Jésus a raconté des paraboles pour nous aider à mieux comprendre notre monde avec son lot de mystères et d'interrogations. Dans la série que nous continuons aujourd'hui, nous réfléchissons sur le sens de l'une d'elles, celle nommée la parabole de la mauvaise herbe.
Elle se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Notre lectrice Sandra va la lire.
Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux, comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?»« Non, » répondit le maître, « car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, « Enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. »
Alain est de retour parmi nous pour nous expliquer le sens de cette parabole. Bonjour Alain.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
La dernière fois, nous avons parlé du semeur et nous avons appris qu'il représente le Fils de l'homme dont parle le prophète Daniel. Oh, le Fils de l'homme est souverain sur toute la terre et il est juge de tous. Et nous savons que Jésus est ce Fils de l'homme.
Merci Yann pour ce résumé en guise d'introduction. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le sens des graines semées par le semeur.
Il convient donc de demander, que représente-t-elle ?
Jésus lui-même a répondu à cette question, car plus tard dans la soirée, ses disciples lui ont demandé qu'il leur explique cette parabole. En parlant des graines, Jésus leur répond, « La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. » Et puis un peu plus tard, Jésus appelle ses disciples « les justes ».
Mais qui sont alors ceux qui font partie du royaume de Dieu? Que faire pour devenir membre du royaume?
Tout royaume est gouverné par un roi. Or, nous savons que le Fils de l'homme, qui est Jésus, est roi. Et pour faire partie du royaume de Dieu, il faut tout simplement reconnaître que Jésus est ce roi.
Cela semble plutôt facile, mais pouvez-vous nous expliquer davantage ce que vous voulez dire par reconnaître que Jésus est roi?
Bien sûr. Tout d'abord, reconnaître que Jésus est roi, c'est accepter ce que la Bible enseigne au sujet de l'identité de Jésus. Jésus est le roi sauveur par excellence, celui promis par les prophètes et envoyé par Dieu. Les évangiles révèlent toute son autorité et sa puissance divine. Elles nous apprennent que les éléments naturels lui obéissent, même les mauvais esprits se soumettent à lui et ils tremblent devant lui. Ensuite, reconnaître que Jésus est roi, c'est accepter que Jésus dirige notre vie. C'est accepter qu'il la gouverne. C'est vouloir se soumettre à lui. C'est désirer mettre sa parole en pratique. C'est rechercher sa sagesse et sa volonté pour nous aujourd'hui. Il devient donc essentiel d'écouter l'enseignement de Jésus, essentiel de lui faire confiance.
Et souvent, ceux et celles qui se tournent vers Jésus parlent de foi et de repentance.
Oui, cette attitude reflète bien ce que je viens d'exprimer. La foi, c'est véritablement croire que Jésus est le roi sauveur promis. La foi, c'est lui faire confiance. C'est croire qu'il nous pardonne tous nos péchés. La repentance, quant à elle, est un changement d'attitude envers le Seigneur Jésus. Au lieu de l'ignorer, de le rejeter, elle nous incite à reconnaître son importance et à le vénérer. Au lieu d'être rebelle et de suivre seulement nos propres voies, elle nous pousse à nous soumettre à son enseignement et à rechercher sa volonté.
Merci Alain. Cependant, la parabole dont nous parlons parle non seulement de la bonne semence, mais aussi des mauvaises herbes. Que représente-t-elle exactement?
Une fois de plus, référons-nous aux explications de Jésus à son sujet. Les mauvaises herbes, ce sont ceux qui suivent le diable.
Parlons-nous davantage de ces personnes?
Peu de gens, en fait, prennent consciemment la décision de suivre le diable. Toutefois, la Bible affirme que tout homme qui ne suit pas Jésus est en fait sous l'emprise du diable, qu'il en soit conscient ou non. Parmi de telles personnes se trouvent celles qui ont recours à des pratiques occultes et qui s'intéressent au monde des esprits mauvais. De tels individus tombent facilement sous l'emprise directe du diable, car il parvient à les manipuler et à les enfermer dans un cercle vicieux de maux et de malheurs. Mais le diable sème aussi des idées fausses dans l'esprit des gens. Et ainsi, indirectement, ils manipulent leurs pensées et leurs désirs, incitant des multitudes à pratiquer le mal sous ses formes les plus diverses. En parlant du diable, Jésus l'a d'ailleurs appelé le père du mensonge. Il ment au sujet de Dieu. Il tord tout ce que Dieu déclare. Nous en constatons un exemple en Genèse chapitre 3, quand il induit en erreur Adam et Ève pour les entraîner vers la chute et toutes ses conséquences désastreuses. Le diable ne cesse de semer divers mensonges partout dans le monde. Si nous le croyons, nous courons à notre perte.
À la fin de la parabole, nous constatons que le blé et les mauvaises herbes n'ont pas le même destin. Le blé est ramassé et placé dans un grenier, alors que les mauvaises herbes sont brûlées.
Et ceci représente une illustration de la fin des temps quand Jésus reviendra pour juger le monde. Ceux et celles qui s'obstinent à écouter les mensonges du diable et refusent d'écouter Jésus seront, selon les paroles du Seigneur, éliminés du royaume et précipités dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets.
Il s'agit là d'un avertissement solennel, et nous soulignons que pour éviter ces regrets amers et éternels, il nous faut dès aujourd'hui écouter Jésus. Dès à présent, nous devons lui faire confiance. Aujourd'hui, nous devons le laisser diriger nos vies.
C'est exact, Yann, et quelle merveilleuse espérance est annoncée à ceux et celles qui justement écoutent sérieusement le Seigneur. Jésus annonce à leur sujet qu'ils resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père.
Et comment interprétez-vous cette image, resplendir comme le soleil?
C'est une image de la gloire qui se trouve dans la vie éternelle. Après le jugement, quand Jésus aura banni de son royaume le mal et le malheur, nous verrons enfin Dieu tel qu'il est. Nous contemplerons sa gloire, les perfections et la beauté de son caractère. Nous nous émerveillerons non seulement de sa gloire, mais nous la reflèterons aussi. Nous partagerons sa beauté et nous vivrons la paix et la justice, la sécurité et la prospérité.
Merci Alain pour cet aperçu sur les deux destins fort différents qui attendent les enfants de Dieu et ceux du diable. Toutefois, en attendant le retour de Jésus, les bonnes pousses et les mauvaises herbes mentionnés dans la parabole que nous étudions, grandissent ensemble.
Oui, nous parlerons davantage de cet état de choses la prochaine fois.
Merci Alain.
Avec plaisir Yann et au revoir à tous.
Merci Alain pour vos enseignements clairs et instructifs. Nous allons à présent passer à notre courte méditation biblique dont le sujet porte sur le fruit de l'esprit.
Nous nous pencherons plus exactement sur quelques paroles bien connues écrites par l'apôtre Paul dans sa lettre à l'église de Galates, chapitre 5, versets 22 et 23.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses.
Notre invité Patrick va désormais réfléchir sur chacune de ces qualités énumérées par Paul. Il nous montrera, dans un premier temps, la façon dont Jésus demeure pour nous un exemple à travers elle, et ensuite la manière dont le chrétien peut les reproduire. Aujourd'hui, il nous parlera de la fidélité.
La dernière fois, nous avons réfléchi à la fidélité de Jésus à travers son amour sans faille envers ses disciples. Ceux qui l'entouraient pouvaient par moments adopter un comportement décevant et pourtant quelles que soient les circonstances et les difficultés vécues avec eux, Jésus se montrait fidèle. Son amour pour eux était constant. Jamais il ne les a rejetés, ni abandonnés. Aujourd'hui, nous allons continuer à méditer sur la fidélité de Jésus, mais cette fois-ci, en considérant toutes les promesses qu'il a tenues envers ses disciples et les hommes, et ceci malgré la mission éprouvante qu'il allait accomplir. Jésus est venu sur terre pour une raison bien précise, pour remplir une mission particulière. En l'occurrence, offrir sa vie en mourant sur la croix à notre place, afin d'obtenir notre pardon et notre salut auprès de Dieu. Jésus s'est engagé à endurer une telle épreuve, et il s'est montré fidèle à sa promesse, malgré les difficultés rencontrées. Tout d'abord, Satan est venu auprès de Jésus afin de le tenter, d'ébranler sa détermination et de lui proposer d'autres voies plus faciles et attirantes. Cependant, Jésus, fidèle à sa mission, a su surmonter et rejeter toutes ces tentations qui auraient pu l'éloigner du chemin qu'il devait suivre. De même, lorsqu'il expliquait à ses disciples qu'il devait souffrir en ces termes, on cherchait à l'en dissuader. Ils étaient bien intentionnés, mais ne comprenaient pas la croix étant nécessaire. Alors, combien cela a-t-il dû être difficile pour Jésus à résister aux pressions de ceux qui l'aimaient. Toutefois, Jésus, fidèle à sa mission, ne s'est jamais laissé distraire envers et contre tout. Il a tenu ses engagements. Enfin, la veille de sa crucifixion, seul dans le jardin de Gethsémané, Jésus a mesuré la brutalité et l'horreur qu'il allait endurer. Devant ces dures réalités, il aurait pu rebrousser chemin, il aurait pu tout abandonner, il aurait pu appeler des anges à son secours. Mais non, Jésus est fidèle. Il ne renonce pas à ses engagements, il garde ses promesses, quoi qu'il en coûte. Sans cette fidélité tenace, nous ne bénéficierons jamais des fruits de la croix aujourd'hui. Jésus a tenu ses engagements et du coup, nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés. Nous pouvons nous réconcilier à Dieu et jouir d'une vie nouvelle et d'une espérance éternelle.
Merci Patrick. Vous serez de retour la prochaine fois pour nous parler de la fidélité que l'Esprit de Dieu désire produire dans nos vies. Sommes-nous constants dans notre amour les uns envers les autres? Tenons-nous nos engagements? Nous approfondirons toutes ces questions lors de notre prochaine émission.
En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.